d'abord, l'heure, il est midi et demi, TU 13h30 à Libreville. Afrique Midi donc avec vous, Mathis Limano, bonjour.
Bonjour Charlotte Hidrague, bonjour à tous. Et à la une d'Afrique Midi, au Gabon, l'ancienne première dame et son fils sont sortis de prison, arrêtés à la suite du coup d'état contre Ali Bongo. Ils ont passé plus d'un an et demi en prison. Ils sont désormais assignés à résidence. À suivre, l'exportation de bétail interdite par le Niger. Décision de Niamey à quelques semaines de l'Aïd, la Tabaski. Le Maroc et la Côte d'Ivoire se rapprochent. Abidjan et Rabat viennent de signer un accord visant à renforcer la coopération militaire, une première depuis 1960. On appelle notre correspondant au Maroc dans ce journal. Au Sénégal, l'Assemblée Générale des Conférences Épiscopales d'Afrique de l'Ouest s'est achevée hier soir. On vous en détaille les grandes lignes. Et puis, clap de fin pour le SILA en Côte d'Ivoire, le Salon International du Livre d'Abidjan. Et un constat, le livre séduit de plus en plus. Au Gabon, après un an et demi passé en prison, l'ancienne première dame Sylvia Bongo et son fils Nourdine ont quitté leur cellule. Ils avaient été arrêtés dans la foulée du coup d'état militaire de 2023 qui avait entraîné la chute du régime d'Ali Bongo. Yves Laurent Goma, ils sont désormais assignés à résidence à Libreville.
L'information largement relayée sur les réseaux sociaux est finalement confirmée par plusieurs sources judiciaires. La sortie de prison s'est faite en deux phases. C'est d'abord Sylvia qui a quitté sa cellule mardi dernier, son fils Nourdine Bongo Valentin, vendredi. Tous auraient rejoint la résidence de la Sablière dans le nord de la capitale où les attendait l'ancien président Ali Bongo. L'ex-première dame et son fils ne sont pas pour autant totalement libres. Ils sont assignés à résidence. Ils doivent donc être toujours disponibles en cas de nécessité de la justice gabonaise. Cette évolution fait suite à un accord, soutient un proche du dossier qui ne donne aucun détail sur le contenu ou sur les signataires de cet accord. Sylvia Bongo et son fils avaient été arrêtés dès les premières heures du coup d'état du 30 août 2023, perpétré par leur ancien chef de sécurité, Brice Clotaire Oligingema. Plusieurs chefs d'accusation pèsent contre eux, dont le détournement de fonds publics et le blanchiment des capitaux. Leurs avocats ont toujours dénoncé des conditions de détention particulièrement horribles à la prison centrale de Libreville. Yves Laurent Goma, Libreville, RFI.
Des pluies torrentielles et un très lourd bilan en RDC. Au moins 110 personnes sont mortes dans les inondations qui ont touché le village de Kassaba au sud Kivu dans le territoire de Fizi. Ça s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi. Une centaine de maisons se sont écroulées, jetant 850 habitants dans la rue, sans abri, d'après l'administrateur du territoire. Une équipe a été dépêchée en urgence par le gouvernement provincial du sud Kivu pour évaluer la situation. RFI 13h33 à Niamey, le Niger décide d'interdire l'exportation du bétail. Un décret publié vendredi par le ministère du Commerce. Bonjour Justine Fontaine.
Bonjour, bonjour à tous.
Cette décision intervient quelques semaines avant la fête de l'Aïd, la Tabaski.
Oui, Niamey avait déjà pris une décision similaire l'an dernier à la même période. Le ministère n'a pas justifié la mesure, mais à cause de l'insécurité et du vol de bétail par des groupes djihadistes, les éleveurs ont plus de difficultés à emmener leurs animaux dans la capitale, par exemple, ce qui a tendance à tirer les prix vers le haut à l'approche de la Tabaski, d'où l'idée de fermer la porte aux exportations. Sauf que la mesure ne plaît pas aux éleveurs qui craignent de perdre des revenus s'ils ne peuvent pas vendre à l'export. C'est ce que dit la Fédération Ensemble pour l'élevage au Niger. L'organisation demande la levée de la mesure ou alors que celle-ci s'applique uniquement aux moutons jusqu'à la Tabaski, mais pas aux chèvres, ni aux vaches et aux chameaux. Par ailleurs, étant donné que le Niger est d'habitude un important exportateur, l'interdiction décidée vendredi pourrait aussi avoir des conséquences pour les pays de la région, notamment le Nigeria voisin, mais aussi la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où les animaux sacrifiés pour la Tabaski viennent en grande majorité de l'étranger et notamment du Niger.
Merci Justine Fontaine en direct de nos studios à Paris. On reste au Niger de nouveau où trois journalistes de la radio Sahara FM d'Agadez sont toujours détenus à la gendarmerie de Niamey. Interpellés une première fois jeudi dernier, ils avaient été relâchés le lendemain avant d'être de nouveau arrêtés quelques heures plus tard. Les trois journalistes avaient repris une information diffusée par le média en ligne LSI Africa sur une affaire concernant le Niger, la Russie et la Turquie et mêlant contrats commerciaux et espionnage. Écoutez la réaction de Noël Yao, président de l'UJPLA, l'Union des journalistes de la presse libre africaine.
Chaque fois qu'un journaliste est interpellé de la sorte, c'est d'abord l'indignation. Ce qui est reproché à nos trois collègues, c'est d'avoir relayé une information du site LSI. L'information, selon notre base au Niger, n'a pas été suffisamment vérifiée. Mais nous plaidons pour, dans ces cas-là, passer par les organes de régulation ou alors par le droit de réponse, plutôt que d'embastiller, d'interpeller les journalistes. La place des journalistes, ce n'est pas la prison. L'Union des journalistes de la presse libre africaine, évidemment, ne peut que demander la libération de nos trois collègues journalistes. S'il y a un droit de réponse, ils le feront. Il faut arrêter de toujours choisir la voie de la répression.
Noël Yaou avec David Baché. Venons-en à une poignée de main, celle entre Vladimir Poutine et le capitaine Ibrahim Traoré à Moscou. Invité à l'occasion des commémorations de la victoire sur l'Allemagne nazie, le président de la transition du Burkina Faso a pu échanger avec son homologue russe. Au cœur des discussions, le renforcement de la coopération en matière de défense, mais aussi de transfert de connaissances, Arthur Ponchelet.
Au cours de l'entretien, le président russe a souligné que ce qui unissait la Russie et le Burkina Faso aujourd'hui, c'était la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme et qu'il s'agit de restaurer l'ordre constitutionnel face à des groupes radicaux dans certaines régions du Burkina Faso. Vladimir Poutine a reconnu que les échanges sont modestes entre les deux pays, mais veut travailler au renforcement des relations économiques et des échanges commerciaux. Le capitaine Traoré affirme, lui, avoir tiré des leçons de son séjour à Moscou, notamment de la capacité de la Russie à rester sur le devant de la scène internationale malgré les sanctions. Le chef de l'État burkinabé souhaite renforcer la coopération militaire avec la Russie, car la guerre imposée à son pays n'est, selon lui, qu'une manifestation du nazisme. Ce n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme, a-t-il dit face au président russe. Et l'aide que la Russie pourrait aujourd'hui octroyer au Burkina Faso, ce sont les connaissances, a précisé le capitaine Traoré, afin de former sa jeunesse. Le président russe a ainsi promis une multiplication par deux du nombre de bourses accordées aux citoyens burkinabés.
Arthur Ponchelet, midi 37 à Abidjan, une heure de plus à Rabat. C'est une première dans l'histoire des deux pays. La Côte d'Ivoire et le Maroc scellent un accord de coopération militaire signé vendredi à l'occasion de la visite du ministre ivoirien de la Défense dans le Royaume. Formation, assistance, santé militaire, le document prévoit un renforcement des échanges entre les forces armées royales et les forces armées de Côte d'Ivoire. Mathias Reynal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de RFI à Casablanca. Cet accord entre le Maroc et la Côte d'Ivoire vient en fait formaliser une coopération militaire déjà très intense.
Oui, et cela fait plus de 10 ans même que les deux armées coopèrent en matière de formation, par exemple. Cette signature, c'est l'aboutissement de discussions entamées il y a plusieurs mois. Des échanges ont notamment eu lieu entre les équipes de l'ambassade ivoirienne à Rabat et le ministre marocain délégué de l'administration de la Défense nationale. Au-delà de la formation, le texte prévoit un renforcement de la coopération en matière d'entraînement conjoint, de santé militaire, mais aussi une assistance technique, l'échange d'expertise, lit-on dans un communiqué de l'administration de la Défense nationale marocaine. Le ministre ivoirien, de son côté, a souligné le caractère prioritaire et stratégique du partenariat avec le Maroc. Cet accord permettra de renforcer les liens entre Rabat et Abidjan, alors que le Maroc est déjà son deuxième plus important partenaire militaire sur le volet de la formation, après la France. Chaque année, l'armée de terre, les forces spéciales, la marine et la gendarmerie ivoirienne envoient une centaine d'hommes, tous grades confondus, dans les écoles militaires du royaume, dont l'académie de Meknès, très réputée. Des instructeurs marocains sont régulièrement envoyés en mission de formation également en Côte d'Ivoire. De longue date, le Maroc a développé des liens de coopération puissants dans le domaine militaire avec de nombreux pays de la sous-région.
Merci Mathias Reynal en direct de Casablanca pour Radio France Internationale. Première messe dominicale aujourd'hui pour Léon XIV. Plus jamais la guerre, a lancé le souverain pontife depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre en interpellant ce qu'il a appelé les grands de ce monde. Au Sénégal, et hasard du calendrier, se tenait toute la semaine l'Assemblée Générale des Conférences Épiscopales d'Afrique de l'Ouest qui regroupe 16 pays. Une cinquième édition dans un contexte particulier donc, puisque le pape a été désigné entre-temps. Les participants lui ont d'ailleurs adressé leurs félicitations et ont prié
brillait pour sa réussite. Si les échanges se tenaient derrière des portes bien fermées pour maintenir le secret, les grandes lignes ont tout de même été présentées hier à la presse, Gwendal Lavina.
Le thème pour une église synodale et autonome au service de la justice et de la paix donnait des indices. Et effectivement, la question de l'autonomie est longuement évoquée par Mgr Twabli Yulo, le président des conférences épiscopales d'Afrique de l'Ouest.
D'abord, autonomie spirituelle, pensée par nous-mêmes, bien sûr, dans une stricte fidélité à l'enseignement de l'église. Autonomie culturelle, célébrer la foi commune de l'église à partir de nos cultures locales. Car nous célébrons Dieu avec ce que nous sommes et avec ce que nous avons.
Les participants demandent également plus d'autonomie financière, des aspirations en phase avec les directions données par le Vatican ces dernières années. Pour la conférence, les églises ouest-africaines doivent aussi être des moteurs pour la paix dans une zone en proie au terrorisme.
Nous voulons apporter notre contribution et aucun de nos pays d'Afrique n'est à l'abri. Donc ça doit nous préoccuper tous. Donc la paix, mais pas n'importe quelle paix. Une paix basée, fondée sur la justice.
Les 148 participants appellent enfin au renforcement du dialogue entre les différentes communautés religieuses ou sociales avec comme seul objectif l'amélioration de la vie des populations. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
Culture et lecture à présent en Côte d'Ivoire. Le SILA, le Salon international du livre d'Abidjan, a refermé les portes de sa 15e édition hier soir, mettant fin à des lectures et des débats qui ont rythmé toute la semaine le parc des expositions de Port-Boué. Un rendez-vous qui célèbre les littératures du monde et met en lumière les talents ivoiriens et africains. Notre correspondant à Abidjan, Abdoulaziz Diallo, y a déambulé pour RFI.
Difficile de se frayer un chemin dans les allées bondées du SILA. Petits et grands se pressent autour des stands à la recherche d'un roman, d'un recueil de poésie ou d'une bande dessinée à emporter. Un engouement qui ravit la romancière Mawa S. Bakayoko.
Cette fréquentation est en hausse. Ça veut dire que quelque part le message d'éducation d'amener les Ivoiriens à la lecture porte ses fruits.
Le SILA, c'est aussi une opportunité économique pour les auteurs. Mais pour les jeunes plumes, la partie est loin d'être gagnée. Fulgence Nchou, auteur depuis 2 ans, n'a vendu qu'une 20aine de livres en 5 jours.
Ces personnes ont des idées déjà arrêtées sur certains livres. Des auteurs qu'ils connaissent dans les écoles, c'est ce qu'ils viennent chercher. Oh, ils ne cherchent pas à découvrir d'autres livres. C'est ça un peu qui crée le problème.
L'accès aux livres reste aussi freiné par son prix. Le coût du papier pèse lourd, regrette Anzata Ouattara, écrivaine et éditrice.
On aimerait pouvoir faire des livres abordables pour que ce soit accessible à tout le monde. Mais le prix du papier fait que les imprimeurs sont vraiment contraints de faire des prix très élevés et c'est difficile.
Pour promouvoir la lecture, notamment auprès des plus jeunes, le ministère de la Culture et de la Francophonie mise entre autres sur les centres de lecture et d'action culturelle. Il en existe 19 à travers le pays et les livres y sont accessibles gratuitement. Abdelaziz Diallo, Abidjan. RFI.
Et puis du sport pour refermer votre journal en football. La saison touche à sa fin en Angleterre. 36e journée de Premier League ce week-end. Une saison à oublier pour Manchester United et West Ham, respectivement 15e et 17e. Les deux équipes assurées de se maintenir s'affrontent ce dimanche à Old Trafford, un stade que va retrouver Aaron Wan-Bissaka qui a passé 5 saisons à Manchester avant de signer à West Ham l'été dernier. L'arrière-droit a vécu une semaine particulière. Il a reçu sa première convocation en sélection de République démocratique du Congo, Victor Missistrano.
Les Léopards plutôt que les Trois Lions. À 27 ans, Aaron Wan-Bissaka a donc choisi la tanière de RDC où il a évolué chez les moins de 17 ans avant de porter le maillot de l'Angleterre jusqu'en catégorie espoir. Né en banlieue londonienne et formé dans le pays, le défenseur d'origine congolaise était éligible pour ces deux nations et il a donc été convaincu par le sélectionneur Sébastien De Sabre de venir renforcer les Léopards. Arrivé des Red Devils à West Ham l'été dernier pour environ 15 millions d'euros, l'arrière droit affiche une solide expérience, plus de 200 matchs en Premier League. Il n'a manqué qu'une rencontre de championnat cette saison et Aaron Wan-Bissaka n'est pas le seul nouveau de cette liste. Comme lui, Afimiko Pululu, également éligible avec l'Angola, a opté pour la RDC. L'attaquant du club polonais de Jagiellonia est le meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence. Des renforts de choix donc pour une sélection pleine d'ambition à la lutte pour une première qualification en Coupe du Monde depuis 1974.
Et la première apparition d'Aaron Wan-Bissaka sous le maillot de la RDC. Ce sera peut-être lors des 2 prochains matchs amicaux prévus en France à Orléans. les 5 et 8 juin contre le Mali et Madagascar. Enfin, 18e victoire en 18 combats pour le boxeur Souleymane Sissoko qui est venu à bout du Lituanien Kavalioskas. Combat qui avait lieu hier à Malabo, en Guinée équatoriale, chez les poids welters, c'est-à-dire les poids de moins de 67 kilos. Souleymane Sissoko, désormais challenger et candidat crédible pour le titre WBC. RFI, les midi 45 en temps universel. Merci d'écouter la Radio du Monde.
Afrique Midi, Mathis Limano.
Et on est encore ensemble pour une quinzaine de minutes à suivre la chronique littéraire de Tirthankar Chanda, aujourd'hui consacrée à un monument de la littérature africaine. Disparu le mois dernier à 83 ans, les chemins d'écriture nous mèneront vers l'œuvre de Valentin Yves Moudimbe. Puis comme une petite souris pour 100% création, Maria Alfonso a laissé traîner son micro dans l'atelier des costumes du Palais Garnier à Paris, l'opéra qui fête cette année ses 150 ans. Mais avant, l'Afrique en marche sur RFI.
L'Afrique en marche.
Et on joue en ce dimanche les jeux vidéo, un secteur en plein développement. On estime qu'un gamer sur 10 dans le monde est africain. Pour la plupart de jeunes joueurs qui privilégient le smartphone et qui apprécient aussi des jeux qui font écho aux cultures locales. Alors pour répondre à la demande, les studios de jeux émergent et se multiplient sur le continent. Et Frédéric Gara nous présente aujourd'hui l'un d'entre eux, la société sénégalaise Kaifo. Ça veut dire « viens jouer » en wolof.
Si vous connaissez cette petite musique, eh bien c'est peut-être parce qu'un jour vous avez joué à Dakar Secret sur votre smartphone. Dakar Secret, comme des dizaines de jeux, c'est une conception de Kaifo, une société sénégalaise qui depuis 5 ans crée des jeux téléchargeables à destination du public africain. Casse-tête, jeux de course, football ou bien jeux éducatifs, des jeux qui présentent une unité, celle d'adopter un look et des codes africains. C'est ainsi par exemple que le Candy Crush de Kaifo fait évoluer non pas des bonbons dans des colonnes, mais des masques traditionnels. Tiernio Ndiaye, l'un des concepteurs de jeux chez Kaifo.
On était fan des jeux vidéo, donc on jouait, mais souvent on voyait pas des personnages africains au niveau des jeux. Donc c'était important pour nous de montrer une représentation des personnages africains au niveau des jeux vidéo. On a par exemple un jeu Détective Sera, où l'ensemble des lieux s'est inspiré des lieux emblématiques qu'on retrouve ici à Dakar, qui permet aussi de montrer notre culture à travers ce jeu-là.
Kaifo en Wolof, ça veut dire « viens jouer ». C'est l'idée de l'invitation de venir jouer à des jeux vidéo africains.
Julien Herbin, ex-Ubisoft, une major du jeu vidéo dans le monde, est le fondateur de Kaifo.
Le marché du jeu vidéo en Afrique est essentiellement présent sur le smartphone, avec 95% des joueurs qui jouent sur smartphone. La particularité de ces jeux, en fait, c'est qu'ils ne s'installent pas. C'est des jeux instantanés, donc il suffit d'aller sur notre site web et on peut y accéder directement. On compte un nombre de joueurs uniques mensuels. On cumule environ 100 000 joueurs sur nos 4 ou 5 jeux les plus populaires. Il y a évidemment des sociétés qui ont des millions, voire des dizaines de millions de joueurs mensuels hein, à l'échelle mondiale. Mais pour un petit studio africain qui débute, je trouve que c'est quand même assez intéressant comme chiffre. La croissance des marchés africains ne fait que grandir largement plus vite que les autres marchés au niveau mondial.
Pour répondre à ce marché grandissant, il faut des compétences. Or, les écoles spécifiques de conception de jeux vidéo sont rares en Afrique. Aussi, depuis un an et demi, un Sénégal Gaming Hub, un centre de jeux, a été mis en place par Kaifo et un autre studio de jeux vidéo, Maseka, en partenariat avec la délégation sénégalaise à l'entrepreneuriat et l'ambassade de France. Marie-Pierre Thiam est coordinatrice de cet incubateur à talents créatifs.
C'est l'idéal pour les jeunes qui sont incubés là-bas de pouvoir avoir cette formation en game design pour qu'ils puissent un peu comprendre ce que c'est que le game design. C'est beaucoup de domaines en fait qui s'allient pour pouvoir faire des jeux vidéo. On a des artistes en 2D, des artistes en 3D, il y a des animateurs 2D. On a même des sound designers, les gens qui s'occupent de faire les effets sonores, la musique du jeu et tout ça. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent travailler ensemble en synergie pour arriver à créer des jeux.
Ce Sénégal Gaming Hub a été financé par l'ambassade de France à Dakar. Mathieu Bécu, attaché de coopération, innovation et économie numérique.
Si on imagine qu'à l'échelle mondiale, on a un marché du jeu vidéo qui représente 300 milliards d'euros environ et que 1% de ce marché est capté par le marché africain, il est important de pouvoir se dire qu'il y a un potentiel considérable avec une demande qui est exprimée, mais avec une capacité de répondre à cette demande avec la création de jeux vidéo sur des contenus africains qui sont extrêmement faibles aujourd'hui. Donc l'idée était de pouvoir développer un écosystème favorable sur le continent. Et ça, c'est une approche assez unique.
Au terme de 6 mois d'incubation, les apprentis concepteurs peuvent toucher, pour les projets les plus aboutis, une bourse afin de créer leur propre société de production de jeux vidéo et peut-être un jour, comme Kaifo, s'amuser à développer des jeux pour la jeunesse africaine.
Frédéric Gara pour l'Afrique en marche. Le marché du jeu africain représentait l'an dernier 1,8 milliard de dollars, avec une croissance 6 fois plus importante que la moyenne mondiale. Midi 50 en temps universel, place aux titres qui font l'actualité internationale de ce dimanche 11 mai. Vladimir Poutine propose des négociations directes avec l'Ukraine. Elles se dérouleraient la semaine prochaine à Istanbul. Une proposition bien accueillie par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, même si le Kremlin ne s'est toujours pas prononcé sur le cessez-le-feu de 30 jours que réclament Kiev et ses alliés. La trêve entre l'Inde et le Pakistan, très précaire, censée être entrée en vigueur, elle tient malgré quelques accrochages rapportés par les deux pays. Également dans l'actualité, la reprise des négociations entre l'Iran et les États-Unis sur le programme nucléaire de Téhéran. Enfin, à Rome, le tout premier message dominical du nouveau pape Léon XIV. Il a lancé un appel aux grandes puissances afin qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde. Voilà pour les titres internationaux. Restez avec nous. Afrique Midi continue avec la chronique littéraire. Chemin d'écriture consacré aujourd'hui au philosophe, poète et romancier congolais Valentin-Yves Moudimbe. Auteur incontournable du continent, RFI revient sur l'œuvre de celui qui s'est éteint le mois dernier à l'âge de 83 ans, et ce à l'occasion de la parution en français de son célèbre essai « L'invention en Afrique ». Tirkandar Chanda.
Au prisme du présent, l'expérience coloniale ne représente qu'un bref instant dans l'histoire africaine. Mais cet instant est aujourd'hui encore source de douleur et de controverse, puisqu'il engendra à tout le moins une nouvelle forme historique et ouvrit la voie à des discours d'un genre radicalement nouveau sur les traditions et les cultures africaines.
C'est sur ces propos que s'ouvre le magistral « L'invention de l'Afrique » de Valentin-Yves Moudimbe. Cet essai qui vient de paraître en traduction française est devenu un classique des études africaines. Les phrases d'ouverture donnent le ton du livre, campé à la fois dans la philosophie, la littérature, l'histoire des idées et l'histoire tout court. Bref, un livre d'une richesse exceptionnelle. Dans le premier volet de cette chronique, nous avions évoqué l'œuvre littéraire importante de Moudimbe, composée de poésie et de fiction. Des genres que l'auteur a abandonnés depuis qu'il s'est installé aux États-Unis dans les années 1980 pour se consacrer à l'écriture d'essais théoriques pour l'historien des lettres africaines Bernard Mouralis, qui fut le premier exégète des écrits de Moudimbe. Cet abandon du projet littéraire pose question. Bernard Mouralis.
On peut se demander si l'entrée dans cette carrière universitaire aux États-Unis n'a pas correspondu à un certain appauvrissement de la personne même de l'écrivain. À partir du moment où il était aux États-Unis, il essaie de répondre à la demande sociale américaine, du tissu universitaire américain. Il est apprécié, mais est-ce que ça n'a pas freiné la suite de son œuvre, qui est une grande œuvre?
L'invention de l'Afrique, publiée en anglais aux États-Unis, s'inscrit dans la suite des premiers essais de Moudimbe, parus en français dans les années 1970. Son sujet, l'ethnocentrisme colonial dans la construction des discours africanistes. Moudimbe évoque les récits coloniaux qui ont constitué l'Afrique comme le lieu par excellence de la négativité. L'autre grand thème du livre, c'est l'émergence du sujet africain autonome, seule garantie aux yeux de l'auteur d'une possible authenticité du savoir africaniste. Bernard Mouralis.
L'idée forte, l'invention de l'Afrique, c'est de porter une interrogation sur la validité des énoncés concernant l'Afrique. Pendant longtemps, quand même, l'Afrique a été vue à travers des énoncés souvent d'origine européenne, mais Moudimbe met en perspective suivre plusieurs types d'énoncés. Il met les énoncés d'origine européenne, mais il met aussi les énoncés d'origine africaine. Par exemple, la négritude ou les énoncés sur l'africocentrisme. Vaudimet, au fond, estime qu'il n'y a que le sujet africain qui peut parler de son expérience.
De nombreux commentateurs ont souligné les similitudes entre l'approche de Moudimbé et la démarche d'un Édouard Saïd, l'auteur de l'orientalisme, qui a déconstruit les visées idéologiques dans les discours occidentaux sur l'Orient. Pour Bernard Mouralis, la similitude entre ces deux penseurs se trouve également dans la confiance qu'ils font à la subjectivité comme fondement des discours sur les sociétés. Bernard Mouralis.
Il y a des points communs, mais peut-être la marque propre à Moudimbé, c'est d'avoir insisté sur la restauration des droits du sujet. On a l'impression que chez ces deux grands esprits, l'analyse des énoncés ne suffisait pas. Ils ont voulu aller plus avant en eux-mêmes et ils ont produit l'un et l'autre de très belles autobiographies. Et là, on retrouve évidemment le sujet.
Ce topos du sujet, synonyme de l'humain, ponctue la réflexion de Moudimbé. Et si le sujet était l'antidote contre la déchirure, thème qui hante les pages des romans et des poésies de l'auteur de L'invention de l'Afrique.
Un chemin d'écriture avec Tirthankar Chanda. Et bientôt 15h à Paris, avant le retour de l'info sur RFI, 100% création nous emmène à nouveau au Palais Garnier à Paris, l'opéra emblématique qui souffle cette année ses 150 bougies. À cette occasion, on réécoute un nouvel épisode de cette série plongée aujourd'hui dans l'atelier des costumes de l'opéra, Maria Alfonso.
Apprentissage, découverte, tentative, expérience, voilà. Donc ça reste toujours très heureux.
Autodidacte, Bernard Conan se dirigeait vers la mode. À 19 ans, il rencontre une compagnie qui monte des formes lyriques et qui cherche un costumier. Embarqué dans cette aventure, pour lui, c'est une découverte. Après un long parcours dans cette compagnie et quelques étapes intermédiaires, il frappe à l'Opéra de Paris et les portes s'ouvrent. Il y travaille depuis 30 ans, conscient du cadre exceptionnel de ce quotidien à part, mais avec des obligations tout autant.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de contraintes qui sont la sécurité. On a des activités très variées. À la teinture, il y a quand même de l'eau bouillante. On soude, donc il y a aussi la flamme. Il y a quelques produits dangereux, donc on a des équipements qui sont utilisés, qui n'étaient peut-être pas le cas il y a 30 ans, par exemple. On est très, très sensibilisé à la sécurité. On est aussi très sensibilisé au budget. Il y a un cadre très strict en termes de temps, de planification et de mesure du travail, vraiment, et de la production. Il y a beaucoup de services dans une maison comme l'opéra et on est quand même d'abord au service des ateliers de couture, c'est-à-dire que nous on travaille en amont, on teint les tissus, on les peint, on les imprime. Il y a un échange, on est très à l'écoute de leur temps de production, on doit répondre à des attentes. Et après aussi avec les autres services et aussi avec les artistes du ballet.
Pour Bernard Conan, la première contrainte c'est le danseur, l'artiste. Et les éléments décoratifs du costume ne doivent pas être un poids.
Si on fait un bijou, on va faire attention d'utiliser des matériaux très légers. On va pas partir sur des grosses parures métalliques. Les choses peut-être les plus étonnantes, c'est de la corde de guitare qu'on a détournée, qui est un matériau très léger, très flexible, très facile, qui permet de créer des structures très aériennes. C'est un bijou de tête. On est vraiment dans la Renaissance italienne, puisque c'est Roméo et Juliette, avec des perles et une pointe qui est réalisée en corde de guitare. Ça aurait pu être de la corde à piano qui est extrêmement utilisée aussi. Et après, l'inventaire est impossible. Ça dépend vraiment des esthétiques de chaque spectacle. Nous, ici, à Garnier, on est quand même sur une boîte noire dans laquelle on envoie de la lumière. Effectivement, les éléments accrochent la lumière et se mettent à prendre vie, à briller. Après, c'est une question de proportion. Nous, on travaille effectivement sur la distance et sur la perception.
Retrouvez Bernard Conan, responsable de l'atelier décoration de costumes de l'Opéra de Paris sur RFI.fr, chronique 100% création et en podcast.
Maria Alfonso était au Palais Garnier à Paris pour 100% création, l'opéra qui fête cette année ses 150 ans. C'est la fin d'Afrique Midi. Merci à vous de l'avoir suivi. Benoît Raymond était à la réalisation. Karine Franck à la rédaction en chef, attachée d'édition Cécile Perriard. Il est presque 15h à Paris, 13h en temps universel. L'actualité revient dans moins de 2 minutes maintenant. Et le nouveau point complet sur l'actualité du continent africain, c'est à 18h30 temps universel. Restez avec nous sur RFI. Merci à vous.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Restez en forme et en bonne santé, les conseils d'un médecin du sport.
Mardi.
Les problèmes de vue chez l'enfant pour un dépistage précoce.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
BPM. Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Depuis plus d'une décennie, cette MC porte le flambeau du hip-hop sud-africain. Jürgen Blackrock est dans BPM La Rencontre. I'm into secret codes, Major Tom back to
ground control. Could be a holographic globe, silent planet that turns slow. Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.